Chapitre 11. Le premier verset montre que l'envoi des douze n'impliquait pas la cessation de l'activité personnelle du Seigneur. Et l'écho de toutes ses œuvres parvient aux oreilles de Jean dans sa prison. Il s'attendait manifestement à ce que le personnage important qu'il avait annoncé intervienne en sa faveur. Or, il était là, délivrant toutes sortes d'êtres indignes de leur maladie et de leur peine, et oubliant apparemment son précurseur. Mise ainsi à l'épreuve, la foi de Jean est quelque peu ébranlée. La réponse que lui fait le Seigneur revêt la forme d'un nouveau témoignage à ses propres activités de grâce, montrant bien qu'il accomplissait la prophétie d'Ésaïe 61, verset 1. Bienheureux ceux qui n'étaient pas scandalisés par son humiliation et l'absence de la gloire extérieure qui caractérisera sa seconde venue. Ensuite, Jésus rend témoignage à Jean. Celui-ci n'était ni un roseau agité par le vent, ni un homme vêtu de vêtements précieux, mais il était plus qu'un prophète. Il était le messager annoncé par Malachie, envoyé pour préparer le chemin du Seigneur. En outre, Jean était le prophète Élie de la première venue, et il marquait la fin d'une époque. La dispensation de la loi et des prophètes allait jusqu'à lui, et à partir de son jour, le royaume des cieux était ouvert. Pour autant qu'il y avait la violence ou l'énergie de la foi pour en ravir l'entrée. Quand le royaume sera établi visiblement, il n'y aura plus besoin de la même énergie de la foi. Tout ceci montrait la grandeur de Jean. Toutefois, le moindre dans le royaume des cieux aurait une position plus élevée que cet homme éminent qui a préparé le chemin, mais n'a pas vécu pour y entrer. La grandeur morale de Jean était sans égale. Mais beaucoup de personnes d'un poids moral bien inférieur seraient plus grandes quant à la position extérieure. Après avoir parlé de Jean, de sa grandeur et de la position qui lui avait été donnée quant à son ministère, le Seigneur se penche sur l'indifférence du peuple. Ils avaient entendu la prédication énergique de Jean, puis ils avaient écouté le Seigneur et avaient vu ses œuvres de puissance, mais rien ne les avait vraiment touchés. Ils étaient semblables à des enfants irrités qu'on ne parviendrait pas à persuader d'entrer dans le jeu. Il y avait eu une note de sévérité dans le ministère de Jean, mais il ne manifestait aucune trace de lamentation et de repentance. Jésus était venu, plein de grâce et de la joie de la délivrance, et il ne montrait aucun signe réel de bonheur. Il trouvait plutôt moyen de discréditer l'un et l'autre. Le reproche qu'ils faisaient à Jean d'avoir un démon était un mensonge éhonté, tandis que leur blâme au Seigneur comportait un élément de vérité, parce qu'il était, dans le sens le plus élevé, un ami des publicains et des pécheurs. Pour eux, il l'était dans le sens le plus bas possible. Car lorsqu'un adversaire lance des accusations contre quelqu'un pour le discréditer, une demi-vérité le sert en général davantage qu'un pur mensonge. Tant que nous marchons dans l'obéissance à Dieu avec une bonne conscience, nous n'avons pas à craindre la boue que les adversaires aiment à remuer. Jean, parmi les plus grands des prophètes, et le Fils de l'homme lui-même, ont eu à endurer cela. Ceux qui étaient les enfants de la sagesse n'étaient pas dupes de ces calomnies. Ils donnaient raison à la sagesse et condamnaient par là les adversaires. Le même fait a été constaté en d'autres termes lorsque Jésus dit « Vous ne croyez pas, car vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. » Jean 10, versets 26 et 27. À ce point, nous voyons le Seigneur reconnaître que les villes de Galilée dans lesquelles le plus grand nombre de ces miracles avaient été faits l'avaient définitivement refusé. Elles avaient été au bénéfice d'un témoignage tel que ni Tyr et Sidon, ni le pays de Sodome n'en avaient jamais eu. Or, plus le privilège est grand, plus la responsabilité est grande, et plus le jugement est sévère lorsqu'on méprise le privilège et qu'on faillit à la responsabilité. Un triste sort est réservé à Chorazin, Bethsaïda et Capernaum. Leurs habitants de cette époque ont devant eux le jour de jugement, et les villes elles-mêmes ont été tellement détruites qu'aujourd'hui encore, leur site est un objet de controverse. Ils avaient rejeté Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, et par conséquent, le royaume qui était présenté en lui. Mais dans ce moment de crise, Jésus se reposait sur le propos du Père et sur la perfection de ses voies, les voies conduisant à l'accomplissement de son propos. Ceux dont le Seigneur avait déploré l'indifférence étaient, selon l'estimation du monde, les sages et les intelligents. Mais il y avait aussi les petits-enfants, et c'est à ceux-ci, non pas aux premiers, que le Père avait révélé les choses de toute importance pour le présent. C'était ce que le Père avait trouvé bon devant lui, et Jésus l'acceptait avec reconnaissance. Dieu a toujours agi ainsi, et il continue d'agir ainsi aujourd'hui, comme nous le voyons en 1 Corinthiens 1, versets 21 à 31. Le propos de Dieu s'accomplira. Le royaume présenté en Christ allait être rejeté, et le royaume prendrait un caractère caché, du fait de l'absence du roi, en attendant son établissement dans une puissance et une gloire visibles. Il y en aura qui se placeront sous le joug du Fils et qui goûteront ainsi dans leur âme le repos du royaume. Le propos de Dieu est que toute chose soit placée entre les mains du Fils. À cet effet, toutes choses lui ont déjà été remises. Dans le jour à venir, nous le verrons disposer de toutes dans un jugement puissant, discriminatoire. Aujourd'hui, il révèle le Père. Le Fils est si véritablement Dieu qu'il y a en lui des profondeurs insondables connues du Père seul. Le Père est au-delà de toute connaissance humaine, mais le Fils le connaît et il est venu pour le révéler. C'est comme celui qui révèle le Père qu'il dit « Venez à moi, et moi je vous donnerai du repos ». Il se reposait dans la connaissance du Père, de son amour, de son conseil, de ses voies. Et c'est dans ce repos qu'il introduit ceux qui viennent à lui. Son invitation s'adressait spécialement à vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, c'est-à-dire à ceux qui cherchaient sincèrement et pieusement à garder la loi, dont Pierre dit en Actes 15, verset 10, qu'elle est un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter. Plus ils étaient sincères, plus ils devaient se sentir chargés sous ce joug. Aussi les paroles du Seigneur s'adressaient-elles aux enfants de la sagesse, aux petits-enfants, en d'autres termes, aux résidus pieux au milieu de la masse incrédule du peuple. Ils pouvaient maintenant échanger le joug pesant de la loi contre le joug aisé et léger de Christ. Ils apprendraient de lui ce que la loi ne pourrait jamais leur enseigner. Et, en outre, il les enseignerait d'une manière nouvelle. Il était lui-même l'exemple de ce qu'il enseignait. La débonnaireté et l'humilité de cœur sont nécessaires pour prendre et garder une place de soumission, et il manifestait parfaitement ces choses. Bien que fils, il a appris l'obéissance, et ayant été obéissant jusqu'à la mort, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur du salut éternel. Hébreux 5, versets 8 et 9. Dans notre évangile, nous voyons celui qui a été obéissant nous appeler à l'obéissance envers lui, une obéissance qui n'est pas pesante, mais qui conduit au repos. Le repos pour vos âmes était proposé comme résultat d'une marche fidèle dans les sentiers anciens de la loi, voir Jérémie 6, verset 16. Mais ce repos n'a jamais été atteint par les hommes. Le seul moyen d'y parvenir était celui que le Fils, venu pour révéler le Père, donnait à connaître. Il faut que le Père soit connu pour que son propos puisse être accompli.